Le journal Loïc Barrière. Au 17e jour de la guerre en Ukraine, des bombardements ont eu lieu près d'une mosquée abritant des civils à Marioupol. Un responsable de la mosquée assure qu'une bombe est tombée à 700 mètres de l'édifice. Selon la FAO, il y a des risques de famine dans les pays qui importent du blé d'Ukraine et de Russie. Alors que les réserves de blé diminuent, le Liban et l'Égypte ont augmenté le prix du pain. La France organise l'accueil de 2500 réfugiés ukrainiens actuellement en Moldavie. Entretien avec Pierre Henry, président de France Fraternité. Le décès d'Alain Krivine, figure de l'extrême gauche en France, deux fois candidat à l'élection présidentielle, il avait 80 ans. Enfin, les candidats à l'élection présidentielle invités à faire des propositions sur le handicap. Nous écouterons à ce sujet David Gall, élu en Normandie. La Russie pourrait prendre pour cible les convois de livraison d'armes à l'Ukraine, des cibles légitimes, précise le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov. Ce responsable évoque les systèmes de défense aérienne portable et les systèmes de missiles anti-chars que plusieurs pays veulent livrer à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'armée russe. Des informations contradictoires au sujet de Marioupol. Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, une mosquée abritant 80 civils a été bombardée dans cette ville, assiégée par l'armée russe. Mais le président de l'association de la mosquée Souleymane affirme que la mosquée elle-même n'a pas été touchée, même si le quartier est en effet bombardé. Selon ce responsable, une bombe est tombée à 700 mètres seulement de l'édifice. Parmi les civils réfugiés dans la mosquée figure une trentaine de citoyens turcs. Et puis le maire de la ville de Mélitopol a été enlevé par des soldats russes. Selon le parlement ukrainien, Ivan Fedorov refusait de coopérer avec l'armée d'occupation. Le président Zelensky a appelé Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz afin qu'il l'aide à le faire libérer. Une grande partie de la planète pourrait basculer dans l'insécurité alimentaire en raison de cette guerre. Selon la FAO, plusieurs millions de personnes pourraient souffrir de la famine en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'Ukraine et la Russie comptent en effet parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales. Le Liban, par exemple, importe 80% de son blé d'Ukraine et il ne reste plus qu'un mois et demi de réserve. Dans ce pays, le prix du pain a augmenté, tout comme en Égypte, une situation qui inquiète à l'approche du Ramadan. Sur les 2,5 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, plus de 10 000 réfugiés seraient arrivés en France. 2 500 autres actuellement en Moldavie seront transférés en France. Une opération décidée par le président Emmanuel Macron. Entretien avec Pierre Henry, ex-président de France Terre d'Asile, président de France Fraternité et chercheur à l'IPSE.
Vous savez que l'Union européenne a pour la première fois, de manière opérationnelle, mis en place la directive de protection temporaire, qui avait été d'ailleurs adoptée en 2001, après la crise des Balkans. Et cette protection temporaire prévoit une autorisation de séjour immédiate, valable un an pour l'ensemble des ressortissants ukrainiens, mais également des résidents étrangers légaux qui étaient en Ukraine avant le 24 février et qui ont été eux aussi amenés à fuir les bombes. Alors, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 2 millions de personnes qui sont sortis d'Ukraine, et comme d'habitude dans tout conflit ou toute catastrophe, les personnes vont d'abord en proximité de chez eux, et c'est donc les pays voisins de l'Ukraine qui aujourd'hui accueillent le flux important de réfugiés. C'est la Pologne, c'est la Hongrie, c'est la Slovaquie, c'est les États baltes. La France, pour l'instant, a accueilli entre 5 et 6 000 personnes, parce qu'il y a une seconde règle, après celle de la proximité, qui est que les gens se déplacent là où il y a déjà une communauté constituée, une diaspora existante. Et de ce point de vue, la diaspora ukrainienne, elle est présente en Allemagne, elle est présente en Italie, avec plus de 220 000 personnes, en Espagne, plus de 100 000 personnes, 120 000, et également en Grande-Bretagne. Donc, voilà la situation. Nous avions déjà connu en France un accueil de ce type après la guerre des Balkans en 1999. En 8 semaines, nous avions été amenés à accueillir près de 8 000 personnes et kosovars. Et je crois qu'il faut se souvenir de ce conflit pour en tirer un certain nombre de leçons et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a aujourd'hui un grand élan de générosité, c'est vraiment très bien, tout à fait remarquable. Simplement, il faut aussi prévenir les personnes qui aujourd'hui se manifestent en solidarité, que l'hébergement des familles peut être long, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quand le conflit se terminera. Et donc, de ce point de vue, un premier accueil en famille est très bien, mais il faudra qu'à un moment donné, l'État prenne le relais, parce que la fatigue se fera sentir.
Et justement, quel regard portez-vous sur les initiatives individuelles en France pour aider la population ukrainienne, avec notamment des camions qui partent vers la Pologne, près de la frontière?
Alors, ça, écoutez, comme dans tout conflit, il y a une énorme émotion qui se manifeste. Il est clair que les pays limitrophes, la Pologne, la Hongrie sont déjà totalement saturés et qu'il faudra probablement aider ces pays à y faire face. Comment ? D'abord en aidant au déploiement d'infrastructures, de compléments sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif. Ensuite, l'idée d'aller chercher un certain nombre de personnes, ça ne peut se faire que sur une base de volontariat, parce que où les réfugiés souhaitent venir en France, parce que ils y ont des attaches, ou ils souhaitent véritablement reconstruire leur vie, mais il est un peu tôt pour déterminer une attitude général, global, pour que les familles puissent dire ben, je reste ou je retourne. Donc attention à cet élan de générosité, il faut qu'il soit maîtrisé et raisonnable.
Pierre Henry, ex-président de France Terre d'Asile, président de France Fraternité et chercheur à l'IPSE, il répondait à François-Xavier de Calonne. 47 enfants tués ou mutilés en janvier et février dernier durant la guerre au Yémen. Un bilan donné par l'UNICEF. Depuis le début du conflit, plus de 10 200 enfants ont été tués ou blessés. La guerre au Yémen a entraîné aussi la fermeture de 2500 écoles détruites ou utilisées comme refuge pour les déplacés. En France, le décès d'Alain Krivine, figure de l'extrême gauche, candidat à la présidentielle à 2 reprises. Le responsable trotskiste avait 80 ans. Il fut le fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, aux côtés notamment de Daniel Ben Saïd, un parti finalement dissous pour laisser la place au NPA, dont les figures seront Olivier Besancenot ou encore Philippe Poutou, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Toujours en France, mobilisation pour le climat. Ce samedi, dans tout le pays, 150 rassemblements ont été organisés pour que le sujet du climat soit plus présent dans la campagne électorale. Les associations chargées de la question du handicap regrettent que la campagne électorale aborde très peu des questions comme l'accessibilité, l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école ou encore l'allocation adulte handicapé dont le montant dépend des revenus du conjoint. Entretien avec David Gall, élu d'opposition à Donville-les-Bains en Normandie.
On parle de 23 millions de personnes. On a l'association des paralysés de France qui a en ce moment même fait une grosse campagne pour mettre en avant ces 23 millions de voix. Parce qu'aujourd'hui, on délaisse complètement un sujet qui représente 30% de la population. On a des représentants politiques qui n'en parlent pas. Ils sont dans le déni, je pense, qui est pour moi inquiétant. C'est que depuis des années, on ne parle pas d'une thématique qui concerne 30% de la population.
Il faut rappeler qu'on peut être handicapé à la naissance, mais qu'on peut être en situation de handicap au cours de la vie.
Bien sûr, on peut. C'est une thématique qui peut arriver à n'importe qui, sans faire peur à qui que ce soit. J'ai pour ma part eu un accident vasculaire cérébral. J'étais bien portant et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec une paralysie du côté gauche. Et depuis, j'essaye de me débrouiller au-delà de tout ça. Il y a des vies personnelles, on parle de millions de personnes, donc chaque personne a ses problématiques. Et quand vous voyez que nos villes, nos établissements ne sont pas accessibles à tous, ça pose des problèmes au quotidien. Et je rajouterais même qu'en ce moment, avec la hausse du litre, de l'essence, on a encore plus de complications à se déplacer. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui mettent leur pension dans le plein.
Qu'est-ce que vous réclamez en priorité aux candidats ?
Je réclame plus qu'un débat, un peu de sérénité. On a une campagne qui part dans tous les sens et la cacophonie un peu générale. On a un président sortant qui ne veut pas débattre. Moi, je leur propose simplement de, s'ils veulent éviter les sujets qui fâchent, parlons d'un sujet humaniste, parlons de handicap et essayons de trouver des solutions. Parce que il est là l'enjeu. Moi, je suis prêt à me mettre autour d'une table avec différentes personnes et travailler sur un projet. Pour cela, tout simplement, on parle d'accessibilité. On met en place des plans de relance avec de l'aménagement, mais on oublie totalement l'accessibilité des lieux. C'est pour moi un sujet primordial. On a une population qui vieillit. Je pense qu'il faut un véritable projet d'accessibilité et sortir de tous ces freins, en fait, depuis 2005. Vous voyez, on a eu un débat il y a quelques semaines sur l'école. Enfin, c'est même pas un débat. On a eu une polémique qui a duré 2 jours. C'est-à-dire, on a refermé le chapitre. On a un souci à l'école. Il faut ouvrir les yeux. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. D'autres ne peuvent pas aller à l'école ordinaire parce qu'il n'y a pas de moyens. Mettons les moyens, simplement. Permettons à n'importe qui d'aller à l'école, à n'importe qui d'aller travailler, n'importe qui d'aller dans un restaurant. Vous voyez, c'est de la mobilité, c'est de l'inclusion, de la vraie inclusion.
Il faut repenser la question de l'allocation adulte handicapé.
Il faut reprendre. On a aujourd'hui une double discrimination. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui touchent une allocation adulte handicapé et qui sont du coup, enfin, qui est réduite par la prise en compte des revenus du conjoint. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir ce système-là et mettre en place la non prise en compte, tout simplement, des revenus du conjoint et de faire de l'allocation adulte handicapé une pension, enfin un revenu à part, parce que c'est le sujet. Pour en revenir à tout ça, on avait les députés qui étaient prêts à travailler sur le sujet, ils étaient tous d'accord, et on a un gouvernement qui a tout bloqué.
David Gall, élu d'opposition à Donville-les-Bains en Normandie. À Marseille, un policier municipal a été blessé vers 9h ce matin par un homme armé d'un couteau. L'attaque s'est déroulée devant l'hôtel de ville sur le Vieux-Port. L'agresseur, neutralisé par les tirs de riposte des policiers, est décédé. L'homme n'était pas connu des services de police. Les Jeux paralympiques de Pékin, une troisième médaille pour le français Benjamin Davier, devancé de peu par le chinois Wang Chenyang. Il a remporté la médaille d'argent en ski de fond. À 23h ce soir et demain dimanche à 19h, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient sera Pierre-Noël Denis-Oeil, auteur de Tunisien, ligne de vie d'un peuple, publié aux éditions Atelier Henri Dougier. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Orient.